Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi ? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Ce nouvel épisode porte sur la thématique de la santé. Bonjour Béatrice.
Bonjour Caroline.
Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez votre maladie, votre pathologie, s'il vous plaît.
J'ai une maladie de Marfan, qui est une maladie génétique et qui atteint une protéine qui s'appelle la fibrinine. Et donc, du coup, ce manque de fibrinine fait qu'il y a des atteintes au niveau de l'œil, au niveau des tissus, et notamment au niveau du cœur, au niveau de l'aorte et au niveau des muscles. Et donc, j'ai une hyperlaxité ligamentaire et j'ai une atteinte au niveau visuel. J'ai une subluxation du cristallin depuis la naissance. On m'a retiré les cristallins depuis, voilà. Et au niveau du cœur, on m'a opéré deux fois à cœur ouvert.
Je sais que vous avez un sacré profil. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel domaine médical vous travaillez ?
Alors, étonnamment, je suis devenue sage-femme. Et donc, je suis sage-femme depuis 1990. Et je travaille depuis 2006 autour des personnes en situation de handicap, puisque j'ai créé une consultation spécialisée pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, pour la parentalité et pour la gynécologie.
Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez subi beaucoup de discrimination, d'embûches, parce que sage-femme, lorsqu'on est malvoyante, handicapée, ça ne paraît pas simple de prime abord?
Alors, j'ai eu vraiment des barrages, surtout à la première année d'études de sage-femme. C'était pas forcément lié à mon handicap visuel, mais c'était lié à la maladie de Marfan. J'ai vu le médecin du travail et il m'a dit que, qu'avec ma tare génétique, je ne pourrais jamais travailler à l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Il m'empêchait pas de finir mes études de sage-femme.
C'était dur, c'était assez catégorique quand même comme propos.
Ça a été très violent pour moi.
Vous avez beaucoup de casquettes en termes de sensibilisation pour les femmes en situation de handicap. Comment est-ce que vous travaillez avec ce public, cette population qui est spécifique ?
Quand j'ai créé cette consultation pour accueillir les patientes en situation de handicap, je voulais que ce soit une consultation militante. Je tiens à ce terme-là parce qu'elle n'est faite que des patientes et des couples que je reçois. Elle n'existe que parce que elle est faite comme ça. Elle ne ressemble à rien d'autre. Ça, j'en suis sûre et certaine maintenant. Parce qu'à force de me dire, mais non, tu ne fais pas du truc comme tout le monde. Voilà, c'est les patientes qui elles-mêmes me disent non. C'est tout et son contraire d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est vraiment une consultation militante en ce sens où je travaille pour les patientes et les couples et je ne travaille pas pour l'hôpital.
Expliquez. En quoi, en fait, c'est plus militant, à votre avis, qu'une consultation dite lambda pour une femme valide qui se renseignerait dans ce domaine ?
Tout simplement parce que j'ai l'habitude de croire les patientes ou les couples quand ils me disent qu'ils ont été eux-mêmes discriminés par le corps médical.
Et ça arrive souvent ?
Je ne remets pas en doute leurs paroles par rapport à, par exemple, un désir de grossesse, mais non, vous n'y pensez pas, vous êtes en situation de handicap, etc. J'ai cette habitude de les croire parce que cette discrimination, moi, je l'ai subie. Je l'ai subie par rapport à ma propre grossesse et par rapport à tout ce déroulé de la grossesse que j'ai eu de discriminant par rapport à ma maladie que j'allais transmettre à mon enfant. Et j'ai cette intime conviction de dire de les accompagner au mieux. Et c'est ça qui est différent. C'est-à-dire que je ne juge pas. Et ça, je pense que c'est déjà très différent d'un soignant, de ne pas juger. Parce que les soignants ont cette sale habitude de se mettre à la place des patients. On n'est pas à la place des patients. Et ça, je crois qu'il faut vraiment se le mettre dans la tête des soignants. Vous ne pouvez pas être à la place des patients. Vous ne savez pas ce qu'ils ressentent, vous ne savez pas ce qu'ils souhaitent, vous ne savez pas leur capacité. D'une même maladie, on n'a pas les mêmes capacités de récupération, etc. Ça dépend de la personne. Et ça, moi, je l'ai compris par rapport à moi, mais je l'ai compris aussi par rapport aux autres.
Vous êtes dans une bienveillance, une écoute, une empathie qui fait que ça vous ramène, comme vous nous l'expliquez, à votre propre histoire. C'est une projection. Donc forcément, il n'y a pas de jugement.
Je ne peux pas juger qui je suis pour moi juger en tant que professionnelle de santé.
Et ça fait toute la différence par rapport à une autre consultation.
Il faut absolument s'occuper du handicap. Ça a été la consigne de s'occuper du handicap, de la vie intime et de la vie affective des personnes en situation de handicap. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé, s'est donné un objectif. Ils ont créé en Île-de-France la consultation en digynéco. Ils forment des sages-femmes, soi-disant, avec un programme très restreint qui vraiment ne laisse pas la place à toutes les situations de handicap. Et ces sages-femmes exercent uniquement en institution, sont mieux rémunérées à la clé, etc., etc. Mais c'est pour faire du chiffre, c'est-à-dire c'est pour faire de la formation, pour faire de la formation et de rendre compte des chiffres. C'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, de mon côté, on me demande des formations quand ça n'a pas marché avec l'ARS.
Que faudrait-il faire, pardon, pour que les choses avancent dans le bon sens?
Je pense qu'il faudrait créer une formation qui soit adaptée pour les professionnels de santé concernés sur la vie intime des personnes en situation de handicap. Et surtout, je crois aussi que de donner une information d'un point de vue général sur le handicap et la vie affective pour ces professionnels-là.
Donc pour vous, ça serait instaurer un plus de prévention, voilà, de sensibilisation et de conférences à l'arrivée. Donc on en revient au militantisme.
Tout à fait.
Dans ce domaine.
Et moi, ça, le militantisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vrai que les patientes me disent beaucoup. Or, quand tu vas plus être là, ben oui, je dis à un moment donné, je serai plus là.
Et oui, mais vous formez. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Béatrice?
Ah, professionnellement, ben voilà, justement, créer ailleurs et quelque chose vraiment qui tienne le coup et que je puisse partir tranquille.
Merci beaucoup, Béatrice, pour votre témoignage fort, sincère, et je vous souhaite encore une longue vie et un très bon et long militantisme, parce qu'il faut des gens comme vous auprès de populations comme la nôtre.
Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup.
Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi.
Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin Ahuy et présenté par Caroline Pilastre.